je vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission du mercredi 25 juin 2025. Le thème de l'émission de ce jour, répression syndicale et politique envers les syndicalistes. Les 12 et 18 juin derniers, 8 syndicalistes et militants ouvriers passaient devant le tribunal judiciaire de Paris en butte à la répression étatique, l'un syndical et l'autre pour le soutien à la Palestine. Mis en cause pour violation de domicile et violence. Après deux tentatives d'occupation du siège du groupe postal lors d'une grève en 2014, Gaël Quirante, Yann Lemerrer, tous deux licenciés ainsi que trois autres postiers et postières des Hauts-de-Seine, étaient convoqués au tribunal correctionnel de Paris ce 12 juin 2025. Les cinq prévenus seront fixés sur leur sort le 10 juillet prochain. Et nous allons entendre dans cette première partie d'émission les paroles des inculpés et des soutiens lors du procès du 12 juin dernier à Paris. Bonne écoute.
On n'est ni à genoux ni sages. Et pour une raison simple, sans nous, ils sont rien. C'est nous qui faisons tout tourner. Ça a été dit par plusieurs camarades. Mais à la poste, ils nous traitent comme des pions. On vient de trouver il n'y a pas très longtemps une carte dite des partenaires dans laquelle ils classent les agents en fonction de leur opinion sur les réorganisations, dans laquelle les dirigeants de l'entreprise se réunissent et déterminent qu'ils peuvent user de contraintes, c'est-à-dire de violence, contre les salariés qui s'opposent au projet. La violence, elle est du côté du patronat. La violence, elle est du côté de l'État. La violence, elle est du côté de tous ceux et de toutes celles qui, tous les jours, nous disent de nous tenir sages. Et c'est parce qu'on a utilisé l'action collective, la grève et les occupations qu'ils essayent, malgré les licenciements, malgré les révocations, on continue à leur dire, ce ne sont pas les...
les patrons qui déterminent qui sont les représentants et représentantes syndicaux. Ce sont les travailleurs et les travailleuses. Et c'est ça qui les fait chier. Ce qui les fait chier, c'est lorsqu'on met le doigt dans leur pouvoir de direction. Mais en fait, ce pouvoir de direction, il est illégitime parce qu'ils ne font rien. Et parce que c'est nous qui devons tout décider, car c'est nous qui faisons tout tourner. Alors qu'ils entendent jusqu'à ce qu'on arrive au tribunal, parce qu'il faut obtenir cette relâche, il faudra arracher cette réintégration. La Poste, elle est à cul.
Elle est à nous.
Et la Poste, elle est à cul.
Elle est à nous.
On va accompagner nos camarades jusqu'à l'entrée du tribunal. On propose de faire une haie d'honneur jusqu'à là-bas et de les accompagner en ce moment.
Bonjour, mon nom c'est Marine, je suis prof au collège à Gennevilliers dans le 92 et je suis syndiquée à la FSU SNES. Pour nous c'était hyper important d'être là aujourd'hui pour plusieurs raisons en fait. La première des raisons c'est que quand même les camarades de Sudpost 92 sont nos camarades de lutte en fait. Ils ont toujours été à nos côtés pendant les grosses bagarres contre la réforme des retraites, contre toutes les attaques contre notre camp social. On les a côtoyés dans les AG Interpro, sur les piquets de grève, dans les rassemblements, dans les manifestations. On a toujours tourné, on est allé dans les bureaux de poste avec eux pour faire des prises de parole. Ils sont venus dans nos salles des maîtres et de profs pour discuter avec les collègues pendant la dernière réforme bagarre contre la réforme des retraites. Et donc en fait, on fait que se côtoyer, lutter ensemble et bagarrer. Et donc pour nous, c'était tout à naturel aujourd'hui d'être de leur côté pendant que en fait ils passent en procès pour un procès qui est vraiment extrêmement dégueulasse avec pour des faits de grève d'il y a 11 ans des choses qu'on voit en fait partout d'essayer que on relève pas la tête et qu'on puisse pas militer de la façon qu'on veut. Et la deuxième raison pourquoi c'est vraiment très important d'être là, c'est que franchement, la répression qui s'abat contre notre camp social aujourd'hui, elle est féroce. Et donc nous, on doit être tout aussi féroce, tout aussi soudés face au patronat et face au gouvernement. Dans l'éducation, il y a plusieurs faits de répression qui, aujourd'hui, contre des collègues dans le 93, excusez-moi, qui sont syndicalistes et donc qui sont mutés d'office, contre une collègue qui fait une minute de silence en solidarité avec la Palestine après que ses élèves lui ont demandé. Elle a un blâme et bien sûr, toutes les autres cas qui a eu lieu dans les années passées de répression contre dans l'éducation. Et ben nous, c'est tout aussi naturel qu'on soit avec ses collègues, mais aussi avec les collègues de notre camp social qui se bat contre la répression.
Gennevilliers, il y a eu des grèves récemment. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sujet? Pourquoi ils sont partis en grève et quelle est l'actualité de cette mobilisation?
En fait, la mobilisation sur Gennevilliers est vraiment très importante et vraiment très forte. Ça part en fait d'un collectif de parents et enseignants qui se bat contre la fermeture de 17 classes dans les écoles primaires et 3 postes de remplaçants qui sont supprimés. Sachant que cette année, on s'est déjà bagarré parce qu'il n'y avait pas assez de profs devant des élèves. Donc on voit que l'année prochaine, en fait, leur logique, au lieu de recruter, au lieu de mettre des moyens, en fait, c'est de supprimer des postes. Et faire que ben, les élèves, maintenant, en fait, ça va être lunaire. Ils seront 25, 26, 27 par classe dans des écoles qui sont REP, REP+, et dans des écoles comme à Gennevilliers qui devraient être en REP, mais qui sont sorties de la REP en 2015. Ces élèves, en fait, c'est une catastrophe pour eux. Pour eux, leur collège, pour aller après au collège, pour aller au lycée, pour aller à la fac, bah, en fait, leur avenir est compromis. En fait, déjà, si l'école primaire, ils doivent être entassés comme des sardines dans une classe, on voit que clairement, l'enseignement va être très dégradé pour eux. Et bien sûr, les conditions de travail pour les collègues, franchement, quand tu peux même pas marcher dans ta classe, parce
parce que tu as tellement d'élèves, bah on fait comment ?
Tu peux rappeler un peu ce que c'est que REP, REP Plus ?
Ouais, bien sûr. Donc la REP et la REP Plus, ça s'appelle la réseau éducation prioritaire. Et c'est en fait dans les quartiers où le IPS, que l'indispositionnement social qui est très bas, qui est très défavorisé, nos élèves sont très précaires, beaucoup en sont boursiers. Et en fait, c'est en mesure du gouvernement pour essayer d'aider et donner un peu de moyens à ces écoles qui sont très défavorisées. Sur Gennevilliers, on a trois collèges et plusieurs écoles. Deux des collèges sont en REP et un collège et n'est pas en REP, a été enlevé de la REP en 2015. Et en fait, on voit que depuis qu'il a été enlevé en REP, c'est le collège Pasteur où moi je suis enseignante, en fait, il a fait que se dégrader année après année, en perdant de l'argent, mais aussi en perdant des profs et en perdant en positionnement social. Donc ça veut dire que nos familles sont plus précaires et ont augmenté en boursier. Et donc, en fait, ça, bien sûr, ça ruisselle dans les écoles, c'est exactement les moins de moyens qui sont alloués aux écoles et aux collèges.
Comment tu réagis aux propositions du gouvernement face au maire il y a deux jours?
C'est avec un peu effroi qu'on entend parler d'une collègue qui se fait tuer devant son bahut, qui se fait tuer devant son bahut pendant qu'elle accueillait les élèves. Mais nous, franchement, quand on entend les propositions du gouvernement, déjà, la première chose, c'est que probablement, ils n'ont jamais été devant le porte d'un collège ou d'un lycée. Quand tu accueilles de 500 à 1000, à 1500, à 2000 élèves à 8 heures, ben, franchement, des portiques, ils n'ont jamais allé à l'aéroport. C'est abusé, c'est absurde. Et la deuxième chose qu'on veut dire, c'est nous, c'est pas plus de répression qu'on a besoin en fait. C'est plus de profs, c'est plus d'AED, c'est plus de moyens, c'est plus d'infirmiers scolaires, de psy-EN. Les psy-EN, elles sont partagées. Nous, moi, dans mon collège.
L'éducation.
Exactement, les psychologues de l'éducation nationale, elles sont partagées entre les écoles et le collège. Les assistantes sociaux, ils sont partagés aussi. Nous, sur notre collège, si je dis pas de bêtises, elle est là genre un jour et demi pour 770 élèves. Donc imaginez, avec une précarité comme on a, comment elle peut s'occuper de toutes les situations qui deviennent de plus en plus graves depuis le Covid. Comment on peut en fait lutter face à ça? Donc pour nous, c'est pas plus de flics, c'est pas plus de portiques, c'est plus d'argent en fait qu'on a besoin.
Tu peux nous dire un mot sur les AESH dans le 92 Nord? Quelle est la situation des AESH? Donc parce qu'à chaque fois qu'il y a un rassemblement prof, je tiens à parler des AESH parce qu'on en parle très peu. Donc, est-ce que toi tu peux nous dire leur situation dans le 92?
Ouais, donc les AESH, la première chose, c'est que c'est des collègues qui sont extrêmement précaires, majoritairement des femmes, qui sont payées franchement des cacahuètes pour le taf essentiel qu'elles font. Donc la première chose, c'est qu'il faut absolument exiger des salaires et des conditions bien plus importantes. Et en fait, on le voit comme partout dans l'éducation, en fait, on coupe les moyens. Et donc, en coupant les moyens pour les AESH, bah, en fait, on peut recruter moins. Déjà, qui veut faire ce taf pour ce qu'on est payé et les conditions de travail où on est. Donc déjà, il n'y a pas assez de moyens humains et humaines. Et la deuxième chose, c'est que là, ces dernières années, on a augmenté ce qu'on appelle la mutualisation. Et donc, ça veut dire qu'on a plusieurs élèves, genre dans mon bahut, des fois, elles sont deux à trois élèves à s'occuper pour une personne. Une personne, elle n'a qu'une main pour écrire, hein, donc elle ne peut pas écrire pour trois élèves en même temps. Donc, on voit un peu l'absurdité déjà de la situation. Cette année, moi, dans mon collège, on est dans un collège pilote, qu'on passe de ce qu'on appelle du PIALS au PASS. Franchement, c'est vraiment franchement, c'est des termes de l'éducation nationale, c'est toujours des acronymes aux deux sesterres. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, les AESH, ce qu'ils essayent de mettre en place, c'est au lieu d'embaucher des AESH, c'est de faire qu'elles soient mutualisées pour plus d'élèves en situation d'handicap. Et versus aujourd'hui, les AESH, elles s'occupent que des élèves qui ont des notifications de la MDPH.
En fait, moins handicapés pour...
Pour prendre les élèves qui ne sont pas notifiés par la MDPH, donc qui sont des élèves, ce qu'on appelle des élèves à besoin. Aujourd'hui, les AESH sont que pour les élèves qui ont des notifications avec la MDPH. Et demain, ce qu'ils veulent faire pour la rentrée de 2005, en septembre, ils veulent que les AESH... 2025 s'occupe des élèves MDPH et aussi les autres élèves qui sont à besoin. Et donc aujourd'hui on n'a pas assez d'AESH pour les élèves qui sont notifiés par les MDPH. Imaginons demain quand en fait on a encore plus d'élèves à s'en occuper. Voilà. C'est vraiment une attaque extrêmement grave contre nos collègues AESH. Et il y a des bagarres qui s'entraînent. Il faut vraiment se battre contre cette précarisation encore plus du métier d'AESH.
C'est juste pour dire que là, on commence juste les témoignages. On vient de terminer différentes plaidoiries, etc. Enfin, c'est quand même procédure hein, qui arrive des années plus tard et qui se base sur les dires d'une cadre qui dit qu'elle pense qu'elle a été agressée, qui n'a pas fait d'accident de travail quand ça a eu lieu, qui n'a pas porté plainte quand elle a eu mal, mais qui connaît quelqu'un qui se trouve être un ancien du GIGN, hein. Quand même un ancien du GIGN, c'est quand même des gens de qualité, avec qui elle a discuté et qui lui a dit que la douleur qu'elle a eue 15 jours plus tard dans le dos, ça devait être sûrement dû à Gaëlle qui rentre 15 jours plus tôt. Et la matérialité des faits, là, les camarades, ils sont poursuivis pour agression, pour violence. La matérialité des faits, c'est que 15 jours plus tard, elle s'est réveillée, elle avait mal au dos. Donc, bon, toujours, il faut doser quand on exagère. Elle a dit, j'ai ressenti des coups de couteau. Elle a vu la gueule du juge, elle a fait, moi, j'ai jamais reçu de coups de couteau. C'était pas tout à fait ça. Et j'ai ressenti quelque chose, et après j'ai appelé un pote, appelé un ami, et l'ami vous dit, ben, c'est forcément lié à Sudpost 92, et là vous dites, ben, je vais déposer plainte contre Sudpost 92. Bon, c'est quand même chaud, et c'est aussi la directrice de la sécurité, c'est elle qui a choisi les vidéos, comment elles sont coupées, comment elles sont redatées, comment elles sont découpées, et c'est elle qui porte plainte hein, en tant que victime. Elle dit, moi je suis juste là en tant que victime. Me demandez pas des trucs sur la directrice de la sécurité, surtout le 92. Et après on lui dit, mais du coup c'est vous qui avez découpé les vidéos, pourquoi vous les avez choisies comme ça? Bon, je me souviens plus pourquoi je les ai choisies comme ça, mais tous les passages des vidéos qui nous intéressent ne sont pas versés au dossier. Donc les vidéos qui sont là, c'est pas sous réquisition judiciaire, elles ont été coupées et choisies par la personne qui dépose plainte. Enfin, c'est vraiment la justice, venez comme vous êtes au niveau de cette procédure. Mais je pense que si cette affaire elle est jugée en droit, il n'y a qu'une seule solution pour nos sept camarades, la relaxe quoi. Et le ridicule et l'ignominie pour la poste.
Et maintenant avec, avec Blandine de Sud Santé Sociale à PHP, toujours dans le cadre du rassemblement de ce 12 juin 2025 pour la libération des cinq de Nanterre. Pourquoi c'était important d'être là, que le Sud Santé Sociale d'être là? Est-ce que il y a eu un appel à la grève chez vous ou comment ça s'est passé?
Alors pour nous c'était important d'être là et de venir soutenir les postiers et les camarades de Sud. Parce que en fait la répression syndicale c'est un phénomène qui touche tout le monde. Et nous on est solidaires de tous les militants qui sont attaqués et autres. Mais aussi en plus moi je pense que le procès que la Poste leur fait, c'est un procès qui touche tous les militants et les militantes. Parce que là quand même ils sont accusés de violation de domicile professionnel pour une grève qui date de 2014. Ça veut dire que du coup dans le cadre de leur grève, ils sont allés voir le patron, c'est-à-dire Monsieur Laposte, au siège social pour demander des négociations. Et donc maintenant, en fait, quand on ferait ça, ça veut dire que du coup, si aujourd'hui la Poste gagne, et ben en fait, ça fera jurisprudence en fait pour tout le monde. Et ça nous touche tous parce que nous, c'est ce qu'on s'est dit au congrès du syndicat. Aujourd'hui, tout le monde a été un jour ou l'autre voir sa direction pour demander des négociations, pour revendiquer des meilleures conditions de travail. Et nous, dans les hôpitaux, la répression, on connaît bien, parce qu'en fait, ces dernières années, il y a eu plusieurs militants et militantes qui ont été menacés, sanctionnés, pour justement avoir dénoncé le fait qu'ils veulent nous imposer des dégradations des conditions de travail, qu'ils veulent faire des économies sur notre dos, pour avoir dit on n'est pas des pions, ils peuvent nous mettre, ils peuvent pas nous mettre n'importe où. C'est ça en fait la situation, et c'est pour ça que c'était important pour nous aujourd'hui de venir et de soutenir les camarades. Notre objectif, ça va être de continuer à lutter contre la dégradation des conditions de travail à l'hôpital, parce que là, c'est vrai que les attaques, elles sont importantes, les directions à l'hôpital, mais pas que dans mon, que dans le mien, mais partout en fait. Bon, bah, ils ont des objectifs de faire des économies sur la santé. Ça va avoir des conséquences, évidemment, énormément sur les personnels et les collègues et tout, là. Et d'ailleurs, on les voit déjà, hein, les conséquences. Mais ça a aussi des conséquences sur, pour les patients, en fait, hein, aussi, qui sont aussi les premières victimes de ces politiques d'économie. Parce qu'aujourd'hui, se soigner, c'est devenu hyper compliqué à cause de toutes ces politiques d'économie. Et ça, nous, on va continuer à le dénoncer et on va continuer à tout faire pour lutter contre. Les conditions de travail dans les hôpitaux, elles sont compliquées. On a de moins en moins de personnel. On a des lits qui ferment faute de personnel. Donc ça, ça fait moins de place, ça fait moins de place à l'hôpital. Dans un service de cancérologie que je connais bien, bah là, on a fermé des lits alors que des patients, on a plein de patients qui sont atteints de cancer et qu'on a besoin de soigner, en fait. La pression, elle est très forte en ce moment, quand même, sur les militants, sur les militants et les militantes qui dénoncent le génocide à Gaza. On le voit avec Anas, qui est quand même convoqué pour apologie du terrorisme. L'année dernière, c'était l'Union juive française pour la paix qui avait été convoquée aussi pour apologie du terrorisme, quand même. Bon, c'est quand même un peu une grosse blague, l'Union juive française pour la paix convoquée. Enfin, c'est quand même ça la situation, c'est-à-dire que là, il y a une véritable criminalisation des soutiens et la pression, elle est compliquée. C'est compliqué d'organiser la riposte, mais c'est compliqué d'organiser la riposte. Après, moi, je trouve que tout ça est quand même très positif. Il y a eu des manifestations spontanées lundi, il y en a eu mardi soir. Enfin, il y avait plein de gens en fait, qui étaient réunis sur la place de la République pour dire en fait, ça suffit tout ça. Et tout ça est très positif. Et moi, j'espère. Et on va essayer d'être un peu nombreux samedi à la manifestation avec des collègues pour dire ça suffit tout ça, quoi.
Ça m'a fait sourire parce que je crois me souvenir que dans les combats, ils en ont de nombreux, des camarades postiers du 92, il est question du décompte de leur charge de travail. Vous savez que leur charge de travail, elle est minorée par leur employeur La Poste. Donc en gros, La Poste, tous les jours, au quotidien, leur vol du temps de travail. Mais c'est pas La Poste aujourd'hui qui est au tribunal, hein, ça vous aura pas échappé. Je me suis rappelé aussi l'actualité judiciaire un peu récente. 5 ans d'emprisonnement, c'est ce à quoi pouvait être condamné pas seulement la peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, pardon, dont je pense que vous avez tous entendu parler, une femme politique bien connue. Je vous rassure, je pense qu'ici, personne ne la porte dans son cœur. Eh bien, pour détournement de fonds publics. Pour info, elle a pris 4 ans. 4 ans. 5 ans d'emprisonnement aussi, c'est ce que risquait un célèbre comique reconnu responsable d'un grave accident de la route sous l'emprise de la drogue. Vous voyez à qui je pense. Il a pris 2 ans. En fait, on ne va pas se voiler la face. On sait tous fondamentalement qu'est-ce qui est reproché à Gaël, à Yann, à Mohamed, à Brahim et à Dalila. C'est leur ardeur à défendre leur emploi, leurs conditions de travail, leur salaire, bien évidemment celle de leurs collègues. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas encore considéré comme un délit. Qu'est-ce qu'il leur est reproché? C'est de faire vivre un syndicaliste qui contrecarre le sacro-saint pouvoir de direction de l'employeur et qui fait même échec à ce qu'on appelle le lien de subordination. Alors que Gaël et Yann, bien qu'ils soient licenciés, ils accèdent toujours à leur lieu de travail pour aller discuter avec leurs collègues. La vérité, c'est qu'on n'est pas seulement venu défendre des camarades en or. On est venu rappeler dans toute la diversité syndicale et politique qui est la nôtre que toutes les conquêtes de notre camp, c'est avant tout par les manifestations, les grèves, les occupations qu'elles ont été obtenues. Et que pour cela, les armes essentielles, ce sont le nombre, l'organisation et la détermination. Je terminerai en citant, alors ça étonnera pas ceux qui me connaissent un peu, un dénommé Blaise Pascal, excusez du peu. Hein. Voilà ce qu'il nous disait Blaise il y a 5 siècles. La justice est sujette à dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. Ainsi, on a pu donner la force à la justice parce que la force a contredit la justice et a dit qu'elle était injuste et a dit que c'était elle qui était juste. En résumé, et ainsi ne pouvant faire que ce qui est juste fut fort, on a fait de ce qui est fort, que ce qui est fort, pardon, fut juste. Alors oui, justice pour nos camarades postiers du 92 et relax pour eux, merci.
Eh oui, relax, relax, on les sommes des
Alors là, il y a un plan social chez NAFNAF, c'est le secteur de l'habillement. Il y a beaucoup de casse sociale depuis plusieurs années. On en vient même à un point où malheureusement les salariés, parce que c'est extrêmement mortifère pour eux, ne supportant plus les restructurations successives, en fait la vérité c'est qu'ils n'ont qu'une seule envie. C'est que la boîte elle ferme, c'est qu'elle soit liquidée et qu'ils puissent passer à autre chose. Mais même pour ça, ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas écoutés et on est prêt à les faire travailler jusqu'au bout en les pressant comme des citrons. Quoi.
Pourquoi autant de casse dans le secteur du commerce de l'habillement ?
Bah, il faut croire qu'on va bientôt vivre tous nus. Non mais l'habillement ça marche moins qu'avant. On dit beaucoup la concurrence des boîtes étrangères, d'internet. Oui, elle existe. Mais la vérité, c'est que la plupart d'entre nous, on n'a plus un radis à la fin du mois. Donc on change moins. Il y a des économies qui sont faites sur... comment dire, la nourriture, c'est difficile de s'en passer. Mais sur l'habillement, c'est un peu plus facile, malheureusement. Voilà.
Outre NAFNAF, est-ce qu'il y en a d'autres ?
Alors, un peu comme à La Poste, où il y a des cas de répression, hein, parce que là, ce qui est visé, en plus, c'est un syndicat qui est particulièrement fort. Je rappelle, hein, le syndicat Sud Poste 92, c'est le premier syndicat Sud Poste de toute la France, hormis le fait qu'en plus, ils ont une ligne très combative, l'un allant avec l'autre, évidemment. Nous, dans le commerce, c'est surtout un syndicaliste qui repose sur des élus, des représentants. Et même ça, c'est trop pour les employeurs. Donc là, on a une copine, on a obtenu, comme Gaël essaye d'obtenir, une réintégration, en tout cas sur le papier, après 2 ans et demi de bataille devant le tribunal administratif. Mais on a la boîte qui met le pied sur le frein, on va dire, et qui dit non, non, mais nous, on ne lit pas la décision de justice comme vous. Même si la réintégration, elle a été demandée par la salariée en application de la décision de justice, nous on estime donc on doit se battre pour que la salariée à qui on a donné des mandats depuis puisse être réintégrée dans son entreprise. On a la même chose dans une autre entreprise, donc là c'était Nocibé, c'est Zara, qui est une entreprise de l'habillement, où là, depuis qu'on a nommé la déléguée, ils n'ont qu'une seule envie, c'est la muter à 1 heure de chez elle. Mais normalement, ils ne peuvent pas, parce que même s'ils mettent en avant le fait qu'elle avait, au moment où elle a été embauchée, une clause de mutation, à partir du moment où on devient délégué ou élu, la clause de mutation n'est plus opérante. Mais ils ont décidé de passer outre. Donc là, c'est pareil, c'est une bagarre devant le tribunal pour faire reconnaître qu'en fait, son statut de salarié protégé est bafoué. Peut-être que je terminerai là-dessus. Moi, j'ai adoré cette image où il y avait quatre... leader trotskiste entre guillemets en même temps sur la scène, donc Nathalie Arthaud pour Lutte Ouvrière comme vous savez, Anas Kazi pour Évolution Permanente
qui passe la semaine prochaine en
voilà il passe le 18, lui il est de Sudrail, Olivier Besancenot pour le NPA anticapitaliste, hein, pour les auditeurs qui n'avaient pas suivi, il y a 2 NPA et tout le monde le sait, il n'est pas seulement postier et syndiqué, Gaël qui rentre, donc du NPA révolutionnaire. Donc moi, c'était une belle image, ça m'a fait plaisir. Ça veut dire qu'effectivement, dans l'adversité, on oublie nos différences, on met sous le boisseau nos conflits, ça devienne peut-être même des idées. Les camarades faisaient un seul et même grand parti de la classe ouvrière. Mais rassurez-vous, hein, on gardera le droit de tendance. Chacun pourra continuer à se compter et à défendre démocratiquement ce qui le différencie. Moi qui viens régulièrement au palais de justice, c'était très impressionnant quand, à plusieurs centaines, on a été accompagner symboliquement les prévenus, hein, on va les appeler comme ça. On espère évidemment que ce soir, ils passent de statut de prévenu à statut de relaxé. Hein. Zéro condamnation, ils n'ont pas à être condamnés, point barre. Ça serait l'injustice la plus totale. Les faire passer au motif que ce sont des militants pour des gens violents, c'est pas correct, quoi. Ça sonne faux. Voilà, donc le fait de là, je crois que là, ici, c'est la police qui assure la sécurité de l'enceinte. Vraiment, ils marchaient sur des œufs, hein, à tel point que je crois qu'il y a un des prévenus qui n'a pas pu rentrer tout de suite, voire des témoins. Alors, c'est la base, hein, en matière pénale. On se doit de comparaître en personne devant ses juges.
De quoi on parle par là, à part de la dernière perle de Carla, voire de la dernière starlette à la mode, t'en voici, en veux-tu, en voilà. Tout sauf Nubil et Parnabila. Les médias commentent immédiatement tout ce qu'elle dit d'affligeant, comment elle s'habilla. De sa dernière lubie jusqu'à Sofiane, et ce qu'elle lui dit, on connaît mieux sa vie que la Libye de la France pour aller en Libye, puis au Mali. À qui est-ce qu'on se fie pour le connaître? Est-ce qu'on se dit que ce qu'en dit la chaîne de Bouygues peut être honnête? Au fait, de quoi on parle, des faits divers, des agressions, ou du fait que ces faits divers ils servent à faire diversion? Mais quand Bourdieu l'expliquait à la télévision, c'était à une heure où y'avait plus personne pour mater l'émission. De quoi on parle sur les plateaux des talk shows? Ça me choque trop, toujours les mêmes experts qui nous désespèrent et se bornent aux analyses erronées. Mais le plus étonnant, c'est que personne ne les reprend ni ne leur crie au nez. Sans déconner, de quoi on cause au JT d'agité qui dit du shit et habite en cité? Sans jamais examiner l'écho sans cogiter, l'idée c'est d'expliquer les faits parfaits qu'ils sont excités. De quoi on parle à la une du Point et de l'Express?
Bref, l'islam
et de ses dérives infâmes puisqu'il a mauvaise presse. Une femme envoie l'intégrale pour faire sensation, un titre en adéquation, l'islam contre la nation. Hélas, quand ils parlent politique, c'est guère mieux. C'est clair que l'on ne peut rien attendre d'eux de sérieux. C'est peut-être que ils se disent que c'est ce qui nous attire. Dès une tapageuse, t'as pas idée, t'as pas l'œil, t'as pas grand chose à dire. De quoi ils parlent lorsqu'ils invitent des intellectuels? Quand c'est BHL, des méchants arabes et du grand Israël. Quant à Michel, on ferait bien de lui faire fermer sa bouche. Comme lui, pour qui le contredit en faisant du chantage quand il voit rouge. Le QI de George Bush et ça se dit libertaire. Mais ça a recours à la censure pour faire taire l'adversaire. Le bouc- grand tient une couche, dites-moi à quoi ce mec sert. L'impression de voir le diable draper dans les habits de l'abbé Pierre. De quoi parle-t-on à part le téléthon à la télé? De quoi pense-t-on à parler? De quoi peine-t-on à se rappeler? De quoi se marrer devant les omissions des médias dominants, car dans leurs émissions pour mettre en cause les puissants en dînant? On parle de quoi? On parle de rien. On parle de tout ce qui n'a rien à voir avec ce dont on parle, on tente le coup. On parle de tout ce qui pour rien au monde fera de remous. On parle de rien et on sait bien ce qu'on dit ne tient pas debout. On parle de quoi? On parle de rien. On parle de tout ce qui n'a rien à voir avec ce dont on parle. On tente le coup, on parle de tout ce qui pour rien au monde fera de remous. On parle de tout et de rien du tout. De quoi on parle dans le pleura, y'a qu'à voir le nombre de cas où de vieux gars parlent de SMK ou BMCAB. Où ça parle mal, ça parle de deux chats de femmes objets qui ne chercheraient que ça de se fait qualifier le salope et c'est regrettable. On fait des sonneries portables, on parle de conneries port d'armes. La dernière Audi en drame, c'est que dans ce qu'on dit on programme notre défaite face au système qui fait tant d'entre les neutrales. Parce qu'on achète leur merde et que ça fait vivre d'assaut et total. Délire maso et total, de quoi on pose dans l'hip-hop de salope. De fit-up au petit aussi hot qu'on trouve tip-top. De la mode qui passe, de ce que ses victimes portent. Pour plaire à la masse, on achète les derniers produits qui sortent. On dit fuck le système, mais en fait c'est un fake. On crie stop, mais on l'aime en vrai, on fait avec. On dit slog le hip-hop, on l'a réduit en miettes. Et hip-hop, on y croque si ça remplit l'assiette. De quoi on parle dans les couplets du rap français? Pour commencer ou condenser, y'a tout ce qu'ils ont tendance à encenser. Comme avoir de l'argent et le dépenser, comme voir l'argent et l'offenser. Comme les histoires, tous ces gens qu'on a défoncés, on sait qu'on se la raconte beaucoup, mais qu'on raconte pas grand chose qui vaut le coup dans la merde jusqu'au cou dans tout ce dont on cause. Donc au secours, coupez court à ces textes abétissants. J'ai faim d'apprendre et dans ce rap français y'a rien d'appétissant à prendre. Le savoir est une arme, encore faut-il savoir s'en servir. Les mots qu'on déballe sont des balles pour peu qu'on sache écrire. Choisir le dire, les trucs remarquables pour peu qu'on sache quoi dire. La plupart ensemble incapables hélas bavardent à loisir. De quoi ils parlent, ils soignent l'image qui renvoie. Puisqu'à travers l'écran de notre iMac faut qu'ils soient admirables. Car s'ils gagnent de l'argent, ce qu'ils trouveraient pas si mal, ce serait directement imputable à une pub maximale. C'est pourquoi ils parlent des armes qu'ils ont, des femmes qu'ils ont, des sous qu'ils ont, de tout ce qu'ils ont, la consommation et leur horizon. Ils pensent qu'ils ont raison d'y consacrer leurs oraisons en toute saison, contre pouvoir et au plumard à la maison. De quoi on parle dans le rap? De changer le monde? Non, on parle de ça, en tout cas dans celui qui passe sur les ondes. Et plutôt que de fournir des infos contradictoires, les masses médias et le rap racontent les mêmes histoires à qui veut y croire. On parle de quoi? On parle de rien. On parle de tout ce qui n'a rien à voir avec ce dont on parle, on tente le coup. On parle de tout ce qui pour rien au monde fera de remous. On parle de rien et on sait bien ce qu'on dit, tient pas debout. On parle de quoi? On parle de rien. On parle de tout ce qui n'a rien à voir avec ce dont on parle, on tente le coup. On parle de tout ce qui pour rien au monde fera de remous. On parle de tout et de rien du tout. On parle de quoi? On parle de rien. On parle de tout ce qui n'a rien à voir avec ce dont on parle, on tente le coup. On parle de tout ce qui pour rien au monde fera de remous. On parle de rien et on sait bien ce qu'on dit, tient pas debout. On parle de quoi? On parle de rien. On parle de tout ce qui n'a rien à voir avec ce dont on parle, on tente le coup. On parle de tout ce qui pour rien au monde fera de remous. On parle de tout et de rien du tout.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM jusqu'à 13h30. Vous êtes à l'écoute de l'actualité des luttes. Et nous poursuivons l'écoute de cette émission aujourd'hui avec le thème répression syndicale et politique envers des syndicalistes. Et nous restons au tribunal de Paris puisque le 18 juin 2025, environ 2000 personnes étaient rassemblées en soutien à Anas Kazib, syndicaliste à Sudrail et un journaliste de Révolution Permanente. Ils devaient être jugés pour leur solidarité avec la Palestine. Et finalement, le procès a été reporté en 2026. Et dans ce reportage, nous entendrons des interviews, et notamment celui avec Anas Kazib.
Que tu peux nous rappeler un peu le contexte, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qu'on te reproche, et comment tu vis le fait qu'ils ont attendu le fait qu'on soit tous là en tant que soutien pour te dire finalement rendez-vous l'année prochaine.
Ils me reprochent, ils nous accusent de tweet, mais en vérité, peu importe l'outil ou ce qu'ils disent, en fonction des uns et des autres, c'est jamais le même. Ça va être soit des paroles dans un rassemblement, soit ça va être un partage d'une vidéo, quoi que ce soit. L'essentiel, c'est que le fond, c'est ce dont on nous accuse, c'est le soutien au peuple palestinien, ni plus ni moins, peu importe ce qu'il est dit ou ce qu'il est fait, c'est le soutien au peuple palestinien qui est visé. Voilà. Parce que tu peux dire ce que tu veux sur n'importe quoi d'autre, je veux dire des questions de genre, les questions ouvrières, etc. Je veux dire, moi je connais un peu les différents fronts de lutte. Je ne connais pas comme ça des milliers de personnes qui sont accusées comme ça dans les tribunaux pour une grève ou quoi que ce soit. Alors oui, il y a de la répresse dans les différents mouvements, gilets jaunes, grève et tout, mais on va cibler quelques syndicalistes, etc. etc. Là, il y a une utilisation à l'échelle de masse, où je veux dire que c'est des milliers de gens, et pas qu'en France, mais à l'échelle planétaire, notamment occidentale, où on utilise les tribunaux pour criminaliser les gens. Et notamment en France, il y a une loi qui sert à ça, c'est la loi sur l'apologie du terrorisme, notamment qui a été dont le texte a été élargi par le Parti Socialiste pour servir à ça, pour servir à nous faire passer par paquet de sang devant les tribunaux. Donc voilà pourquoi moi je suis là aujourd'hui.
Ta réaction aujourd'hui, qui est-ce qui t'attaque?
C'est la jeunesse française juive qui m'attaque. Donc c'est une organisation liée à l'extrême droite sioniste et même l'extrême droite française. Parce qu'un des avocats, c'est Olivier Pardot, c'est l'avocat d'Éric Zemmour, notamment au moment des procès pour les pétains qui auraient sauvé les juifs. Donc c'est signé par une cinquantaine d'avocats, notamment, donc je disais Olivier Pardot, il y a Sarah Saldman qui était aux Grandes Gueules, qui fait des TikTok pour demander des dons pour acheter des armes pour l'armée israélienne.
Il y a Goldnadel ?
Non, il n'y a pas Goldnadel, parce que... À bientôt, merci d'être venu. Et donc voilà quoi, c'est eux qui nous attaquent. Ils viennent même pas, ils font même pas de conclusion, c'est ça qui est assez fantoche. C'est que c'est une mascarade.
Il y a quoi dans cette plainte en
fait ? Dans la plainte ? Bah en fait dans la plainte on est. Il y a 40 noms. 40 noms de personnalités. Bon, en fait c'est une tribune politique. C'est une tribune politique où en fait on met des noms, ils disent nous considérons que toutes ces personnes-là, elles font le crime d'apologie, etc., etc., tu vois. Et après, ils remettent la plainte sur le bureau d'un procureur et choisis qui tu veux parmi eux, tu vois. Et donc, on a un procureur qui, derrière, il choisit, il dit, ah, tiens, Yannès Kazib, lui, je vais le convoquer. Et puis, on essaie de nous poser des questions pour essayer de créer un dossier de toutes pièces. Et puis, au final, comble du hasard, c'est qu'on voit que le procureur, il nous fait passer dans la chambre des comparutions immédiates avec 6 autres dossiers. C'est-à-dire, on veut condamner un porte-parole d'une organisation politique pour apologie du terrorisme avec même pas une demi-heure, trois quarts d'heure de défense. C'est-à-dire, voilà, on veut qu'on nous défende, on se défende à l'arrache. Et il était hors de question. Donc, c'est pour ça qu'en gros, il renvoie le dossier, quoi.
Donc du coup, quelle sera ta défense l'année prochaine ?
Elle sera la même que celle qu'on avait prévue aujourd'hui, parce qu'on avait préparé bien le dossier. Je pense que ça va être agrémenté en vrai encore plus. Plus le génocide avance, plus les massacres, plus ces choses-là, et plus en vrai, déjà c'est inadmissible même aujourd'hui, 20 mois après le début du génocide, dans un an de plus, où on aura encore plus de visibilité, plus de retours, plus d'expérience sur tout ce qui est en train de se passer, où il y a une intensification des attaques israéliennes dans différents pays du Moyen-Orient, comme l'Iran aussi aujourd'hui. Je veux dire, je vois même pas comment un tribunal il peut même décider de condamner qui que ce soit sur la base d'une dénonciation du massacre du peuple palestinien. Enfin, ça serait incroyable, quoi.
Est-ce que tu penses que c'est le fait qu'on soit tous là, je pense qu'il y avait plusieurs centaines de personnes ici, qui leur a fait peur et qui leur a dit, et qui se sont dit, on va reporter à l'année prochaine, et que l'année prochaine, il y aura peut-être moins de monde
En vrai, de vrai, pour être très honnête, je sais pas si c'est ça. Parce que la réalité, il y a une réalité objective. C'est que pour nous, il était hors de question de faire un procès qui ne prenne pas le temps des témoignages et de la lecture et de la défense qu'on voulait faire. Voilà. Il est hors de question que nous, on aurait pu accepter. La présidente, elle dit qu'elle propose le renvoi d'office, mais parce qu'elle dit, moi je lis le dossier, pour moi il faut au moins 4 heures. Donc oui, on sait qu'il nous faut au moins 4 heures, mais ça fait 3 mois qu'on le demande déjà. On a dit, ça fait 3 mois qu'on demande d'avoir un temps, qu'on va faire amener des témoins à la barre, qu'il y aura des témoignages écrits, que nous on ne va pas faire une défense bradée. Le problème, c'est que le tribunal ne nous a pas calculé. Et que la présidente, elle prend le dossier comme ça, elle le découvre, je pense, en préparant sa journée. Et elle voit que le dossier, il est balèze et qu'il y a des témoins. Et elle dit, moi, c'est mort. À 13h, je dois rendre la salle. Elle dit, donc moi, j'ai 6 dossiers, il y a des détenus. Et moi, je ne suis pas pour que des détenus, on les renvoie et qu'ils restent à croupir en prison des mois et des mois. Le temps d'attendre leur procès, parce que malheureusement c'est énormément ça. Il y a beaucoup de gens qui font de la prison parfois pendant des années avant même d'avoir leur procès, et au final on dit qu'ils sont libérés. Je pense notamment à nos camarades Kanak qui ont passé plus d'un an en prison et dont le procès s'est passé il y a quelques jours et qui ont été totalement relaxés. Mais c'est ça la réalité. Donc c'est le procureur qui nous prend en otage dans ce truc-là en nous mettant dans une comparution immédiate. Donc voilà, il n'y avait pas le temps. Et
le dossier a l'air complètement vide. Là, ils ont tenté de nous faire passer en campagne immédiate. Ça fait beaucoup quand même.
Après, tu ne peux pas faire de vice de procédure, en tout cas là-dessus. Pour eux, c'est normal, il n'y a pas le temps. C'est tout. C'est, malheureusement, tous les jours dans les tribunaux, il y a des procès qui sont renvoyés, hein, en vrai. Hein. On n'est pas les seuls. On n'a même pas de détention, on n'a même pas de procédure judiciaire où on doit pointer au commissariat ou je ne sais quoi, on n'a rien. Donc en fait, la juge, elle ne s'emmerde pas. Elle se dit, toi, tu es en liberté, il n'y a rien, on verra l'année prochaine une date où j'aurai le temps, les autres, ils sont en prison, je n'ai pas que ça à faire, je priorise ceux qui sont en prison pour leur procès, quoi.
C'est pourquoi c'est important pour nous d'être présents aux côtés d'Anas. C'est tout comme Anas, on porte la vision d'un syndicalisme internationaliste. Un syndicaliste qui n'oublie pas ses camarades partout dans le monde. Ses camarades qui luttent contre l'impérialisme français. Ses camarades qui luttent contre la colonisation. Ses camarades qui luttent pour la libération de leur territoire, que ce soit en Palestine, en Kanaky et au Congo. C'est une vision d'un syndicalisme qui lutte pas juste pour les bonnes conditions de travail. C'est un syndicaliste qui ramène les luttes anticoloniales et antiracistes au sein de leur action syndicale. Et c'est pour ça qu'on est réprimé par l'État. Et j'invite tous les camarades, mais également aussi les différentes organisations, et nous en tant que solidaires EHESS, on sera toujours aux côtés des camarades qui sont réprimés par la Palestine. Et dans un an, on vous donne rendez-vous pour soutenir le camarade Anas Kazib. Et je donne la parole maintenant au camarade du comité palestinien centre.
Bonjour à toutes et tous. Merci à toutes et tous d'être présents et présentes aujourd'hui. Évidemment, nous, avec le comité de Palestine de Sciences Po, mais je pense que je peux parler au nom de l'ensemble des comités Palestine dans toutes les universités françaises, on demande la relaxe absolue pour le camarade Anas. C'est absolument honteux ce qui lui arrive. On voit qu'on a un État qui se fascise et qui restreint la liberté d'expression de celles et ceux qui s'offusquent contre un génocide, contre le premier génocide filmé que l'on peut suivre en live de l'histoire de l'humanité et dont toutes nos institutions, qu'elles soient étatiques, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient académiques, sont complètement complices. Nous, on se lève contre ça et on nous restreint notre liberté d'expression de manière absolue. Évidemment, on donne de la force au camarade Anas. On donne également de la force au camarade Georges Ibrahim Abdallah, comme ça a été répété plusieurs fois aujourd'hui, qui est le plus vieux prisonnier politique d'Europe. C'est absolument honteux que le camarade Georges Abdallah ne soit pas libéré. Nous, dans les milieux universitaires, on a aussi fait face à une répression qui n'a jamais été vue auparavant pour aucun autre mouvement de mobilisation étudiante. Nous, rien qu'à Sciences Po, on a plus de 50 convocations en section disciplinaire pour avoir manifesté au sein de l'enceinte de notre école pour la Palestine contre le génocide. Il n'y a eu aucune dégradation physique, aucun accrochage physique. Il n'y a jamais rien eu qui justifierait d'être mis en convocation pour section disciplinaire. Uniquement un soutien un peu trop fort à la Palestine et au peuple palestinien. On a, depuis le début de l'année, plus de 10 camarades qui ont été visés par des mesures d'interdiction d'accès au campus pour avoir manifesté ou pour avoir parlé publiquement pour la Palestine. C'est une répression qui n'est du jamais vu. On est censé être dans une démocratie, mais on voit que ces mécanismes, dès que ça touche les oppressions, le génocide que vit le peuple palestinien, qu'on a des mécanismes de répression dignes d'une dictature, que notre liberté d'expression est complètement muselée et qu'on ne peut pas pointer du doigt les réels complices de ce génocide. Nous, notre université a encore des partenariats avec l'université de Tel Aviv. L'université de Tel Aviv qui, pour rappel, établit la doctrine militaire de l'armée israélienne, qui fait de la recherche pour des armes qui sont utilisées pour décimer les populations à Gaza. C'est absolument honteux. On a également un partenariat avec l'université hébraïque de Jérusalem qui est construite sur des territoires occupés à Jérusalem-Est. Ça devrait être du bon sens qu'on coupe ces partenariats, mais malheureusement, notre administration, notre direction ne veut pas nous entendre et en plus de refuser de nous entendre, nous réprime absolument. Et évidemment, notre répression, c'est absolument rien comparé à ce que vit le peuple palestinien depuis un an et demi, comparé à ce qu'a vécu le peuple libanais depuis un an et demi, le peuple syrien, le peuple yéménite et le peuple iranien qui depuis quelques jours est attaqué de manière indiscriminée par Israël. Israël qui est véritablement l'agresseur dans ce conflit. Et comme toujours, nous continuerons de nous mobiliser. On est là surtout pour dire que cette répression, elle a beau être impressionnante, la libération totale et inconditionnelle de la Palestine l'est beaucoup plus pour nous. Donc on continuera à nous mobiliser, on sera toujours dans la rue, on sera toujours là pour déranger les institutions de pouvoir et pour porter une parole qui est celle de la justice pour le peuple palestinien. J'aimerais terminer par le fait que, avec les camarades, avec beaucoup de camarades, on a été présents et présentes place de la République pour la première occupation urbaine depuis le début de la mobilisation pro-palestinienne en France et pour la première occupation de la place de la République depuis Nuit debout en 2016. Ça fait plus de 10 jours qu'on tient, malgré une répression qui est forte. On a une surveillance policière qui est extrêmement, extrêmement forte pour des groupes qui sont parfois assez restreints. Et on a, comme ça a été déjà dit, sept camarades qui ont fait une garde à vue pour avoir mis un drapeau palestinien sur la statue de la République.
et les décisions qui ont été prises à leur encontre sont extrêmement, extrêmement liberticides. Ces sept camarades, à partir d'hier, n'ont plus le droit de se contacter entre eux, n'ont plus le droit de se rendre en manifestation en France et n'ont plus le droit de se rendre aux abords de la place de la République. Cet espace leur est interdit. Et leur procès, leur audience a été décalée au 19 août. Donc il faut aussi donner de la force à ses camarades. Il faut se rappeler que ce que fait l'État et tous ces mécanismes de répression d'un État qui se fascise de jour en jour vont être instrumentalisés contre toutes les autres causes, contre tous les autres mouvements sociaux. Et c'est pour ça que c'est hyper important qu'on soit tous solidaires entre camarades, avec les syndicats, avec les travailleurs, avec les mouvements féministes, avec tous les mouvements de résistance dans ce pays. Car on ne pourra plus se mobiliser si on ne résiste pas. Donc on restera là, malgré la répression, on reste déterminés, on n'arrêtera pas tant que la Palestine ne sera pas libre. Merci beaucoup.
Palestine vivra, Palestine
vaincra, Palestine
George Abdallah et
Palestine vivra, Palestine vaincra, libérer George Abdallah, Palestine vivra, Palestine vaincra.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu la mobilisation qui a eu lieu autour de Maël, à Sens et ailleurs?
Comment ça s'est passé? Alors la mobilisation a mis un petit peu de temps à démarrer parce que Maëlle, ça a bien senti que c'était quelque chose de très, très dur pour elle qui s'annonçait. Elle a contacté les syndicats et le principal syndicat, la FSU locale, n'était pas prête à la soutenir. Donc ça a un petit peu retardé, mais les autres syndicats ont embrayé et ensuite, sur pression d'une nationale et d'autres courants de la FSU, il y a eu un soutien correct et il y a eu une manifestation assez importante. On était, selon les médias, 150 personnes. Je pense qu'au plus gros de la mobilisation, on a été jusqu'à 300 avec pas mal de lycéens. On avait fait venir des organisations de Paris, Europalestine, Urgence Palestine étant sur la sellette n'a pas pu venir, mais voilà, il y a eu quand même un bon soutien. En revanche, du côté des enseignants, c'est vraiment terrible, à peu près 5 professeurs sur 300, sachant que oui, le lycée de Sens est un des plus gros lycées de France.
Est-ce qu'il y a au moins eu une intersyndicale en soutien?
Alors oui, l'intersyndicale a fonctionné dès que Maëlle a voulu agir, avec donc FO, Sud, et puis la CGT, et ensuite donc rejoint par la FSU, puisque les copains du courant émancipation sont montés au créneau au niveau national pour qu'il y ait un soutien normal à cette lutte.
Quelle est la suite maintenant pour Maëlle? Tu peux nous rappeler ce que...
Alors, il y avait 4 mois de suspension et
avec la sursis ou ferme?
Non, alors ça a été suspendu. La suspension a été suspendue, mais elle a eu un blâme. Et donc, nous, on est contre toute sanction, et y compris, on voudrait que la rectrice lui présente des excuses. Mais non seulement il n'y a pas eu d'excuses, mais il y a eu maintien du blâme avec tout un discours moralisateur assez abject. Donc, il faut continuer à se battre. Et Maëlle a annoncé qu'elle allait porter plainte, d'ailleurs. Voilà. Mais le soutien a été assez correct du côté des militants. Il y avait quelques copains de la CGT, de l'hôpital, de FO. Voilà, donc on a vu le milieu militant habituel très mobilisé. En revanche, dans l'éducation nationale, on ne peut pas dire qu'il y ait eu un soutien correct.
Merci à toi.
Totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
Vous écoutez l'actualité des luttes,
comme tous les jours, du lundi au vendredi,
de 12h30 à 13h30,
sur FPP,
fréquence Paris Pluriel 106.3.
Et l'actualité des luttes, c'est aussi en rediffusion, du lundi au vendredi, de 6h30 à 7h30.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.